Eh bien, je propose de réentendre le passage du début des actes que nous avons écouté tout à l'heure, et de le poursuivre un peu, et puis de nous arrêter dessus. C'est l'ascension, prenons le temps donc de vraiment creuser ces passages-là. On va essayer d'écouter ce que ces mots-là, ce texte, auraient à nous dire peut-être aujourd'hui encore. Et donc je lis dans le livre des Actes 1, et je lis à partir du verset 6, comme tout à l'heure. Ceux qui étaient réunis autour de Jésus lui demandèrent, donc on est vraiment, juste pardon, je contextualise, ça a été dit, mais Jésus vient de passer 40 jours avec ses disciples après sa résurrection, et il a vraiment un groupe autour de lui qui l'a formé. 40 jours de stage avec Jésus, mystérieux, on ne sait pas ce qui a été dit, mais on devine qu'il les a préparés à la suite. Et du coup, les questions fusent. Et voilà une des questions. Ceux qui étaient réunis autour de Jésus lui demandèrent, « Mais Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux et leur dirent « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, le fils de Jacques. Et tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. J'arrête ici ma lecture de la parole de Dieu. En méditant ce passage, j'ai été frappé, interpellé par ce que les apôtres ont pu vivre à ce moment de la séparation. Et en quelques heures, imaginons quand même que ça fait 40 jours qu'ils vivent avec le Christ ressuscité. Rien que ça, ça devait être extraordinaire. Un peu irréel peut-être. Ce Christ qui les enseignait donc. Et puis soudain, tout bascule. Voilà Jésus qui disparaît, qui monte vers le ciel, donc avec ce mystère. Et puis du coup, le règne politique que beaucoup attendaient encore, on le voit, hein, ne se réalise pas. Est-ce que c'est là maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël? On comprend quand même, ça met à l'aise. Ça fait 40 jours que Christ ressuscité les enseigne et il y a encore qui croit qu'il va établir un règne politique et chasser les Romains. Donc si on n'a pas encore tout compris, je pense qu'on peut se faire grâce. Je pense que simplement Dieu est patient, plus patient que nous. Et voilà, donc tout bascule. Donc la question reste ouverte. Jésus disparaît et il se retrouve seul, avec toutes les paroles, toutes les promesses, et ce ciel qui s'est refermé, et les voilà qui restent. On peut imaginer leur sidération quand même, la brutalité du départ, puis le trouble d'être de nouveau laissé seul par Jésus. Et tout cela aurait pu certainement, en tout cas, moi si j'avais été à leur place, je pense que j'aurais été tellement troublé que j'aurais oublié le commandement principal que Jésus vient de leur laisser, être ses témoins. Être ses témoins. Et c'est sans doute pour les remettre en route et leur rappeler qu'ils ont une mission, que les deux anges apparaissent, des hommes en blanc, probablement des anges, chez Luc, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un moment important, au tombeau aussi, il y a des hommes en blanc qui sont des anges qui viennent. Avec ces paroles assez étonnantes, « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Autrement dit, ne restez pas là. Jésus vient de vous confier une mission. Allez, en route. Et on voit donc que les apôtres retournent à Jérusalem. Ils reviennent dans cette pièce qu'ils connaissent bien, leur lieu habituel. Vous savez comment on se sert hein, autour d'une table, autour d'un repas dans une pièce après un deuil. On a besoin de se retrouver comme ça, on a besoin de la chaleur du groupe. C'est presque rendez-vous au local. Hein, on se retrouve là-bas. C'est là que ça se passe. Et après, c'est quoi la suite ? On se réconforte, on réfléchit à ce qui va se passer. Je me suis dit que si Jésus n'avait été qu'un leader charismatique parmi d'autres, l'histoire se serait probablement arrêtée là. En tout cas, elle aurait eu toute une autre suite. Parce qu'en général, quand le leader disparaît, soit le groupe se disperse, certains qui cherchent, enfin, souvent ça se disperse, ça se divise. Il y a certains qui vont chercher un successeur, d'autres qui disent que c'est eux le successeur. Il y en a d'autres qui font un musée à la mémoire de celui qui a disparu. D'autres écrivaient un livre pour essayer de transmettre ça. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe en général. Et ça, c'est humain. D'autres, ils passent à autre chose, ils vont chercher un autre maître ailleurs. Et ce n'est pas ce qui se passe, justement. Parce qu'il y a quelque chose de très différent ici que je voudrais méditer et souligner avec vous, parce qu'il nous impacte, je pense aussi. C'est que le groupe reste uni et se réunit pour prier. Il s'engage dans la prière en attendant l'Esprit Saint. Et si ce groupe ne se décourage pas, si ça ne se passe pas comme d'habitude quand un leader disparaît, c'est parce qu'il a reçu une vision claire de qui il est et de ce qu'il a à faire. Une vision claire de ce que Dieu est en train de faire et de ce qu'il leur demande de faire. Cette vision, l'évangile de Jean nous la rapporte. Jésus, dans la bouche de Jésus, Jean 15, 16, 17, est un long discours de Jésus avant son départ. Il leur explique en fait tout ce qui va se passer. Et il leur dit quel va être leur rôle là-dedans. Luc le rappelle, on dit que c'est ce verset de, ici, là, de acte 1, hop, vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Les commentateurs de Livre des Actes voit dans ce verset-là le résumé de tout le livre des Actes. C'est le fil rouge. C'est ça qui va se passer. S'ils ne se découragent pas, c'est parce qu'ils ont reçu cette mission et cette vision que les anges aussi leur rappellent. Ce départ de Jésus, ce n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle étape. Jésus reviendra et là, on rentre dans un temps d'entre-deux. Et dans ce temps d'entre-deux, Dieu maîtrise. Dieu est celui qui gère les temps et les moments, a dit Jésus. Qu'ils se concentrent sur leur mission. Attendre l'Esprit qui va venir les équiper pour qu'ils soient les témoins. Alors c'est vrai que moi, je trouve extraordinaire, de plus en plus d'ailleurs, je trouve que le calendrier liturgique, c'est vraiment excellent, ça nous rappelle à chaque fois, ça nous fait reparcourir ce chemin de mémoire. Vous savez, on passe de Pâques à l'Ascension, à Pentecôte, et à chaque fois, on revit finalement ce qu'ils ont dû vivre. Si ça s'était passé là, l'Esprit Saint n'est pas encore arrivé, on nous dit « soyez mes témoins », mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est terrifiant. Comment faire ? On va être, soyons les témoins par nos propres forces, alors que notre maître lui-même, qui est Dieu, a été crucifié, donc on ne va pas aller très loin. Restons dans la chambre haute, serrons-nous et attendons que ça passe. Attendons des jours meilleurs. Et c'est ce qui se passe, attendons l'Esprit. Alors il prie. Il prie, je crois, probablement pour se retrouver avec le Christ, pour continuer la relation avec lui, pour le chercher. Et puis il prie aussi pour se préparer à la mission. Ils ont entendu, ils savent que ça y est. Donc c'est l'antichambre. Préparons-nous comme un sportif, vous savez, j'ai pensé à ça. Bon, ma grande spécialité, c'est de sourire ma femme à chaque fois que je parle de sport. Je vous laisse interpréter. Chez les sportifs, la préparation mentale est très importante. On se prépare. La mission arrive, il va falloir partir. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tout ça très beau. ce groupe qui se retrouve, et il n'y a pas de hiérarchie là. Il y a ceux qui ont, les apôtres qui ont reçu explicitement la mission, et puis il y a les autres aussi qui ont reçu la mission, tous les disciples, et puis les femmes, et les proches, la famille, tous ceux qui ont un lien avec Jésus, qui croient en lui, se retrouvent. Mais ce qui les porte, et j'insisterai là-dessus aujourd'hui, c'est cette vision et cette mission qu'ils ont reçue. S'ils étaient restés à regarder le ciel, ou s'ils s'étaient dispersés, que se serait-il passé ? Nous ne serions pas là, ça c'est sûr. Mais parce qu'ils ont pris au sérieux la vision de qui est Dieu et de qui ils étaient, son peuple en mission, un peuple invité à travailler avec Dieu, parce qu'ils ont pris au sérieux la mission que Jésus leur avait donnée, eh bien, 2000 ans après, on compte, j'ai regardé les chiffres, on compte plus de 2,6 milliards de chrétiens aujourd'hui sur la planète. À partir de ce petit groupe-là, 2,6 milliards de chrétiens sur la planète avec, je le souligne au passage, c'est intéressant, c'est un fait souvent méconnu, 47%, il y a 800 millions d'évangéliques a priori, donc on n'est pas les seuls, 2,6 milliards, n'oublions pas ça. 47% des chrétiens évangéliques sont en Afrique, 26% sont en Asie aujourd'hui. Donc l'image du chrétien évangélique blanc, européen ou américain, c'est un cliché qui n'est pas en tout cas conforme à la statistique, mais qui nous dit quelque chose. C'est que le message a bien atteint les extrémités de la terre. Dans la Samarie, à Jérusalem. Et j'imagine toujours ces apôtres sur la colline du Mont des Oliviers en train de regarder l'horizon. Déjà, ça paraissait énorme. La Samarie, c'est à pied, il fallait y aller déjà. S'ils avaient imaginé là où nous en sommes aujourd'hui. Ils ont fait leur part parce qu'ils savaient que Dieu était à l'œuvre, que Jésus allait revenir et que cette période-là, ce n'était pas une période de repos ou de repli, mais de mission. Et vous imaginez bien que la question arrive, et nous ? Ça s'impose, et nous aujourd'hui ? Et nous, ici à Avignon, dans nos vies, dans nos villages, nous qui sommes aussi les disciples du Christ, est-ce que nous sommes portés comme eux par ce commandement missionnaire dans l'attente de son retour ? Est-ce que nous vivons dans la conscience que nous sommes le peuple de Dieu, que nous travaillons avec lui et qu'il nous envoie là où nous sommes, peut-être, hein, simplement, mais qu'il nous envoie pour partager son évangile, témoigner de lui, de ce qu'il vit, de ce qu'il a fait dans nos vies, en attendant qu'il revienne. Et que c'est ça, quelque part, le sens de nos vies aujourd'hui. Aimer, et à travers cet amour-là, révéler le Christ. Moi, je dirais quand même qu'en toute honnêteté, je suis prêt à en discuter, c'est quand même le but de mon interpellation, je ne pense pas que ça soit si clair. D'abord parce que 2000 ans après ces événements, c'est quand même facile de perdre de vue la vision et la mission que Jésus venait de donner. Et on sait aussi que les premiers apôtres s'attendaient à ce que Jésus revienne dans les jours qui suivaient, très rapidement. Et déjà dans les lettres de Pierre, il y a des encouragements à tenir bon et on sent cette impatience, déjà à l'époque, alors qu'on est proche des événements. Donc nous, 2000 ans après, on peut s'être lassé ou se dire, bon voilà, oui, la promesse est lointaine, elle est presque abstraite, c'est très humain, c'est compréhensible. Puis il y a ce sentiment aussi, que j'entends souvent et que je partage, ce sentiment d'insignifiance. Ok, le monde entier, allez, soyez les témoins et... Mais ma vie a tellement peu d'impact déjà, j'essaie d'avoir un impact sur mes proches, sur ceux qui sont autour de moi. Nos vies sont tellement petites, nous sommes tellement minoritaires, tellement peu puissants. Et puis citoyen d'un pays que je trouve angoissé, un pays qui cherche la paix dans la consommation, dans le repli sur soi, dans le rejet des étrangers, de ceux qui vivent différemment, dans retour en arrière sur un passé idéalisé, etc. Ou un pays qui peut se réfugier dans le déni par peur de l'avenir. Alors c'est l'instant présent. Vivons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, disait déjà l'apôtre Paul. Comment ne pas se laisser entraîner par un courant aussi puissant ? Et je confesse devant vous que ces choses-là me traversent aussi. On est dedans, on est là, on est dans ce monde. Parce que sans Christ, nous ne sommes pas plus forts que les autres. Mais avec Christ, l'horizon s'ouvre et tout est permis, tout est possible. Parce qu'il règne. Il règne au-dessus de toute chose et qu'il prie pour nous et que son esprit vit en nous. Et l'exemple des disciples dans ce passage-là, je trouve, peut nous interpeller et nous aider aussi à relever la tête, à retrouver courage avec le Seigneur. D'abord, ce passage nous révèle que les apôtres ont toujours été conscients qu'ils n'étaient pas juste un groupe de gens spirituels qui avaient à cœur de se retrouver de temps en temps pour regarder le ciel. Hein ? Ils ne se retrouvaient pas pour prier ensemble juste parce que ça leur faisait du bien, même si c'était le cas, certainement. Et c'est beau, c'est bon. Il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire. Mais leurs prières sont orientées vers la mission, vers le accomplir la volonté de Dieu, consacrer leur vie à servir Dieu. On voit aussi qu'ils n'ont jamais eu le projet, là je taquine un peu, mais je trouve ça amusant quand même d'imaginer ça, le projet de pérenniser la chambre haute. Vous savez, on va fêter les 60 ans de la chambre haute. Ça fait 60 ans qu'on se retrouve fidèlement dans cette chambre haute, on ne touche à rien parce que c'est la mémoire de ce qu'on a vécu. Hein ? Il y a eu des conflits parce qu'il y en a qui ont essayé de déplacer un meuble. Hein ? Toute ressemblance avec des églises serait complètement volontaire. Qui travaillent joyeusement dans la gestion des conflits. Parfois, je suis effaré, mais je sais qu'on n'est pas meilleur. Hein. C'est tellement facile de perdre de vue la mission et de nous concentrer sur nos réalités. Et je crois que l'adversaire se régale de ça. La communion fraternelle, les moments ensemble, la prière les uns pour les autres, étaient au cœur de la vie des premiers apôtres. Mais ce n'était pas leur premier objectif. Ils étaient des disciples du Christ. Et leur vie était tournée vers son service. Et c'est ça qui comptait. Parce qu'ils avaient une vision fraîche et claire de cet appel-là. Et de qui était leur Dieu. Et d'autres paroles dans le Nouveau Testament qui nous le redisent et qui nous remettent en route. Vous n'êtes plus, dit Paul, vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, c'est-à-dire, on a reçu cet enseignement-là qui a été transmis. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est Éphésiens 2. Et puis, Pierre qui dit dans sa première lettre, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres. Tous prêtres. La nation qui appartient à Dieu. Le peuple qui l'a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Et la pointe est là. Tout ce que Dieu a fait dans votre vie, dit Pierre, il vous a appelé à lui, il vous a révélé, il a fait de vous son peuple pour que vous l'adoriez, que vous l'aimiez, pour que vous soyez sauvés, mais pour que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques autour de vous. Voilà ce que nous sommes, chers frères et sœurs. Alors, dans les semaines qui viennent, nous allons continuer à creuser ce que ça signifie, hein, vivre avec le Saint-Esprit, ça c'est dimanche prochain. Et puis, vivre la mission. Il y a un culte spécial qui est prévu le 7 juin. On aura la joie d'accueillir Samuel Knight, qui est missionnaire avec la CIM à Cadrous, qui viendra aussi partager son regard aussi sur ce que ça signifie être vivre la mission là où nous sommes aujourd'hui. On aura le temps de creuser. Mais pour aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette question. Cette question que je me pose aussi à moi-même, ma vie de foi est-elle orientée par cette vision et cette mission que le Christ a confiée à son Église ? Est-ce que je me vois encore toujours comme un membre de ce peuple qui a été racheté pour manifester l'amour de Dieu à ce monde ? Et on ne parle pas, dépassons l'idée que ça signifierait simplement distribuer des flyers ou parler de Jésus à notre voisin. Oui, ça en fait partie, mais on en reparlera. La mission, c'est de montrer l'amour au nom de Dieu, faire le bien, bénir. Ou est-ce que l'évangile, la vie d'église, la méditation de la Bible, tout ce qui est beau et que le Seigneur me permet de recevoir, est-ce que tout ça c'est devenu pour moi d'abord des sources de bienfaits essentiellement personnelles? Alors je crois que je vais souligner deux points là, c'est que il faut être conscient que notre tradition protestante évangélique nous influence aussi sur ce point-là, parce qu'elle a les défauts de ses qualités. J'en soulignerai deux. Une des grandes qualités du milieu protestant évangélique, souvent soulignée, c'est la chaleur fraternelle, le côté communautaire. On n'a pas l'exclusivité, loin de là, mais ça fait partie des choses qui, pour nous, sont importantes, n'est-ce pas? On aime, c'est important de se retrouver régulièrement dans une chambre haute pour prier ensemble, nous soutenir, partager les repas d'église. Et c'est beau, je crois que c'est vraiment très, très, très beau, ça. Le risque associé, qui a aussi menacé les apôtres, puisque plusieurs fois, Dieu va envoyer des événements inattendus pour les faire avancer, y compris l'église de Jérusalem, la fameuse. Ils se réunissaient, ils vivaient tous ensemble, on se dit c'est génial, sauf que Dieu a permis une persécution pour qu'ils remplissent leur mission, pour qu'ils partent faire ce qu'ils avaient à faire. Le risque associé, c'est le repli communautaire, passer tout son temps entre chrétiens. Voilà. Dans une bulle chaleureuse, rassurante. Et puis progressivement, on perd le contact. Combien d'amis avons-nous en dehors de l'Église? C'est un bon indicateur. Attention à ce que la vie d'Église ne devienne pas un refuge. Elle est un tremplin. Nous venons nous ressourcer. On parle beaucoup dans le CNEF, on parle beaucoup des églises bocales. Vous savez, l'église bocale, c'est aller fermer la semaine. Et puis on ouvre le bocal le dimanche, on se retrouve dedans, et puis après on repart et on la ferme. Ça, c'est pas moi qui ai inventé l'image, mais ça peut faire réfléchir. Comment est-ce que le Seigneur veut que nous continuions cette mission-là de témoigner en tant que communauté et personnellement aujourd'hui-là? Ça, c'est un sujet de prière que je vous partage. Il est personnel, il est aussi communautaire. Je crois que c'est une des questions, peut-être la question la plus importante pour la dynamique d'une communauté comme la nôtre. Maintenir un culte, ce n'est pas un objectif. Mais servir le Seigneur qui est vivant et qui nous envoie comme son peuple, ça oui. Comment est-ce que nous vivons ça? Puis la deuxième grande qualité évangélique, qui n'est pas exclusive non plus, mais qui est quand même, on en est très fiers, c'est la ferveur spirituelle. C'est important pour nous de regarder vers le ciel. On l'a fait tout à l'heure. Chanter les louanges de Dieu, discuter sur les mystères de la foi, passer du temps dans la prière et... Il faut vraiment maintenir ça, c'est important, c'est beau. La ferveur, le désir de Dieu, le désir de se rapprocher de lui, de le connaître, est-ce que ça vous parle? Ce feu-là, l'entretenir. Mais là aussi, il y a un risque qui est associé, évidemment, ça serait de perdre de vue la mission, là aussi, en vivant une spiritualité qui devienne un peu auto-centrée, malgré nous. On est tellement bien avec Dieu, Dieu et moi, Dieu pour moi. Une foi intense, profonde, certainement, mais qui ne regarde plus qu'à l'intérieur, en oubliant d'aller vers les autres. Et nous sommes tous concernés par ces tendances, et c'est pour ça qu'on dit souvent l'équilibre se trouve dans la marche, je crois que c'est ça aussi le rôle de l'Église. Il y a des temps déjà dans une vie, parfois on est plus dans un côté, et c'est bien, et c'est beau. Parfois on est plus dans l'action, c'est beau aussi, pas toujours, on ne cherche pas la perfection. Mais la fidélité avec ce qu'on a. Et je voulais souligner, avant de conclure, que nos cultes nous permettaient de faire ce chemin et montrent aussi, donnent un bon exemple de ce mouvement vers l'intérieur, vers l'extérieur, qui s'équilibre aussi. Quand on vient à l'église, on vient d'abord, on est appelé et on sort du monde pour louer Dieu. On regarde vers le ciel, on se retrouve, on se ressource. Et ensuite, on écoute la parole de Dieu pour repartir. Et le but du culte, c'est pas que nous venions à l'église, c'est pas ça le but. C'est que nous soyons l'église. Tout le reste de la semaine. Que nous soyons ces membres vivants, bien disposés, sans puissance, mais avec un cœur ouvert et disponible au Christ ressuscité pour partager son amour. Comme la chambre haute des apôtres, notre local d'église peut être ce lieu où on reprend souffle, on se ressource, on se soutient pour repartir. Alors je conclurai en osant une transposition des paroles des anges pour nous, hommes et femmes d'Avignon et des alentours. Ne restez pas là à regarder le ciel. Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Vous avez reçu une force quand l'Esprit Saint est descendu sur vous. Alors soyez ses témoins. Au pont des deux eaux, dans le Vaucluse, dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et jusqu'au bout du monde. Amen.